voix nue. Cette semaine, Aurélie Luneau rencontre Jean-Claude Amezen. Ce soir, nourri aux humanités, un homme des Lumières.
Bonsoir Jean-Claude Amezen.
Bonsoir.
On vous retrouve chez vous, dans cette plongée, dans votre parcours de vie, la vie d'un médecin, immunologiste, chercheur en biologie, directeur du Centre d'études du vivant de l'Institut des Humanités de Paris, à l'Université Paris Diderot. Et puis je rappelle aussi que vous êtes président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. Autour de vous, dans cet univers qui est le vôtre, beaucoup de livres, des dossiers, mais on aperçoit aussi des tableaux et des sculptures. Depuis l'enfance, Jean-Claude Amezen, dont nous avons parlé hier, l'art et la culture sont toujours mêlés à votre appétit pour le monde des sciences.
Alors l'appétit pour le monde des sciences a pris des formes différentes au fur et à mesure que les années passaient dans mon enfance, mais je crois que j'ai toujours eu l'impression que comprendre aidait à mieux ressentir, et que ressentir aidait à mieux comprendre, et que donc il n'y avait pas de séparation, et qu'il ne devait pas y avoir de séparation entre ce qui ressort de ce qu'on appelle la raison, la rationalité, et de l'émotion, des arts et des sciences. Et donc pour moi, ça a toujours fait partie d'un même ensemble. S'émerveiller, ressentir des émotions, faire des découvertes, essayer de comprendre de quoi il s'agit. La compréhension ne remplace pas l'émerveillement. Je dirais, l'un se nourrit de l'autre. Et donc, ce qui m'a très tôt surpris, et de plus en plus rétrospectivement au fur et à mesure que j'avançais dans ma scolarité, c'était la distinction qu'il y avait dans notre pays entre les sections et les élèves littéraires et les sections et les élèves scientifiques, comme si au fond il y avait deux types de façons d'appréhender le monde, où on l'appréhendait froidement, rationnellement, le comprenant, et puis ce qu'on ressentait n'avait pas une grande importance, ou alors on l'appréhendait à travers des émotions, à travers une vie intime, à travers l'affectivité, et comprendre rationnellement n'avait pas d'importance. Et donc c'est quelque chose de très étrange, que j'ai trouvé étrange, et dont je pense maintenant que c'est non seulement étrange, mais que c'est nocif, hein, que ça renforce l'idée qu'il y a différentes façons d'être au monde et d'appréhender le monde, et qu'on ne peut pas les conjuguer. J'espère que c'est en train de changer, et dans d'autres pays, j'ai découvert d'autres formes d'apprentissage à l'école, hein, où il n'y a pas de séparation entre ces façons d'aborder le monde et les connaissances, et puis à l'université. Et le fait que, par exemple, aux États-Unis, par le système des colleges, avant de commencer des études de médecine, ou des études d'ingénieur, ou des études de sociologie, eh bien, il y a quelques années où on choisit les domaines qu'on veut étudier, on les mélange à la carte, et on s'initie à ce qui nous intéresse. Et donc on peut avoir un enseignement de physique, et d'anthropologie, et d'art de la Renaissance. Et ça fait une ouverture sur le monde qui en plus permet de mieux choisir ce qui vraiment, d'un point de vue professionnel futur, est ce qui attire le plus. Donc c'est une découverte du monde. Et moi je crois que l'école et l'université doivent être une découverte du monde, pas le début d'une spécialisation, hein, comme s'il fallait le plus vite possible apprendre un domaine de connaissance ou un métier, mais au contraire une ouverture sur le monde qui fasse de chaque personne, quelles que soient les études, la scolarité, le métier qu'elle a choisi, je dirais, une citoyenne ou un citoyen ouvert, hein, capable de comprendre, de participer et de se réjouir du monde qui nous entoure.
Alors quand on plonge dans votre fratrie, Jean-Claude Amezen, on se rend compte, hein, qu'il y a ces valeurs, ce socle pour la vie, les arts, donc les lettres et les sciences au quotidien, sans frontières. Et on sent que vous, votre frère, votre sœur, vous avez un parcours, alors similaire, différent aussi, on en parlera, mais similaire dans le sens où vous êtes parti sur ce terrain des sciences et de la médecine, et parallèlement, vous étiez aussi des artistes.
C'est difficile de parler précisément pour mon frère et ma sœur, hein, mais la musique jouait un rôle énorme dans la vie de mon frère, au point qu'il voulait devenir pianiste et en faire son métier, et c'est parce que mes parents étaient inquiets de son avenir et de sa vie future que ils lui ont dit qu'il fallait passer le bac d'abord, et puis il a passé le bac d'abord très très tôt, avec 2 ans d'avance, alors qu'il était en seconde. Et puis une fois qu'il a passé son bac, il était quand même un peu vieux pour devenir pianiste professionnel. On lui a dit de faire la composition musicale, ça l'intéressait moins, il improvisait magnifiquement, il improvisait toute sa vie, il jouait d'oreille. Et donc il a commencé médecine, et donc on a fait médecine. Je peux parler pour moi, parce que pour lui c'est difficile. Et je pense qu'il a gardé toute sa vie le regret de ne pas avoir fait du piano sa vie. D'une certaine façon, ça l'a hanté, ça l'a
affecté.
Ça l'a en partie, oui, affecté. Ma sœur s'est engagée après nous en médecine parce qu'elle s'est découvert une vocation. Elle voulait être pédiatre, elle voulait soigner les enfants. Je ne sais pas si le fait qu'on était déjà en train d'étudier la médecine et qu'on en parlait tout le temps, mon frère et moi, a joué un rôle. Mais en tout cas, c'était une vraie vocation. Pour mon frère, je pense que c'était l'activité sérieuse qui remplaçait le piano dans lequel il ne s'engageait pas. Pour moi, c'était l'impression de ne pas avoir à choisir entre la science et, je dirais, non pas les arts, mais une dimension plus humaine ou plus humaniste. Et pour moi, la médecine, c'était telle que je la voyais. Mes parents n'étaient pas médecins. Donc, telle que je la voyais, c'était un domaine qui conjuguait ce qu'il y avait de plus humaniste et de plus abstrait. Les maladies de l'esprit, la compréhension de l'esprit, la compréhension de l'environnement. Et puis, ce qu'il y avait de plus concret, la chirurgie, ouvrir un corps, essayer de soigner de la manière plus concrète. Et puis la recherche. L'idée de la recherche était quelque chose qui me passionnait depuis longtemps. Donc il y avait cette dimension presque littéraire. J'avais été très impressionné comme enfant. Jean-Bernard était notre pédiatre. J'avais cette idée un peu romantique et imaginaire de la médecine qu'il incarnait pour moi, qui était le médecin. Médecin à la fois extrêmement sérieux, impressionnant, mais extrêmement respectueux des enfants. Il a été un des premiers à vouvoyer les enfants et à s'adresser aux enfants et pas aux mères, ce que faisaient d'habitude les pédiatres.
Il faut rappeler peut-être un Jean-Bernard, résistant, académicien, père de la bioéthique et premier président du comité d'éthique.
Alors, il était l'un des responsables du développement de la recherche en hématologie sur les leucémies à Saint-Louis. Donc c'était un chercheur dans mon esprit, c'était un grand médecin et c'était un écrivain. Et donc il y avait ses poèmes pendant la résistance et il y avait ses livres que j'ai commencé assez tôt à lire sur la médecine et l'hématologie. Et donc j'avais cette idée d'une médecine qui conjuguait l'art, l'écriture, l'humanisme, le soin, la recherche. Et donc c'était cette idée, cette représentation que je me faisais et qui évitait d'avoir à faire un choix entre ce qui était d'ordre vraiment scientifique ou ce qui était d'ordre plus lié à l'écriture. Il y avait 3 choses qui me fascinaient à l'époque. C'était la recherche, et en particulier la recherche médicale, mais la recherche scientifique médicale. C'était l'écriture, donc tout ce qui était lié à l'écriture, le journalisme. Et puis, peut-être en rapport avec cette révolte dont je vous parlais, très précoce devant les injustices, le métier d'avocat, qui je crois conjuguait la parole, une espèce de fascination que j'avais pour la parole, pour l'argumentation, pour le débat oral, et la défense.
Défendre les droits des personnes.
Défendre les droits des personnes, qui est quelqu'un, hein, quelle que soit la situation, qui soit là pour faire valoir vos droits. Et donc c'est ces 3 tels que je m'en rappeler aujourd'hui. C'est ces 3 pôles au fond qui m'attiraient. Et d'une certaine façon, la médecine, peut-être, si je le reconstruis rétrospectivement, parce que entre défendre les droits et protéger la vie et soulager la souffrance, le lien est assez proche. Hein. Et donc, il y avait peut-être même quelque chose de l'ordre. Je ne connaissais pas encore ce qu'avait dit un grand médecin du 19e siècle, Virchow, l'un des découvreurs de la théorie cellulaire du vivant, de la cellule, qui disait que le médecin est l'avocat des pauvres. Je ne suis pas sûr que cette dimension ait été explicite, mais il y avait en tout cas défendre, protéger, soulager, ne pas abandonner, et puis de la recherche, et puis quelque chose de concret, d'héroïque, hein, parce que je pense que je me représentais la chirurgie à l'époque de manière un peu héroïque. Et puis tout ce qui touchait, qui me paraissait là encore proche de la littérature et des sciences humaines et sociales, qui touchait l'abord de l'esprit, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie. Et donc c'était cet ensemble. Alors j'étais très très frappé après beaucoup plus tard de découvrir aux États-Unis et en Angleterre que l'art faisait partie depuis une vingtaine d'années de la formation des médecins dans les grandes universités américaines et britanniques. Et l'idée, c'est que un bon médecin n'est pas simplement un scientifique et un technicien, c'est quelqu'un qui est capable d'accompagner, d'appréhender la personne humaine. Et que l'art, d'une manière générale, les arts, c'est une façon d'entrer en relation avec ce que nous avons de plus intime et de plus humain. Et l'une des premières, et c'est là que je l'ai découvert, l'une des premières universités aux États-Unis qui a commencé cette approche, et dans laquelle je suis allé faire de la recherche au milieu des années 80, qui est l'université Yale, a été l'une de celles qui a initié ça en mettant en place, pour les premières années les étudiants des premières années de médecine, une initiation à la peinture. Il y a un magnifique musée de peinture à l'université Yale, et donc les étudiants devaient consacrer un certain nombre d'heures à recopier des œuvres, à les étudier. Le but, c'était d'augmenter leur empathie, d'augmenter leur capacité à percevoir, à comprendre, à interagir avec les personnes. Et en effet, quand ils ont évalué, eh bien, les étudiants qui avaient participé à cette initiation à la peinture montraient plus d'empathie que les autres. Mais ce qui les a surpris, et ce qu'ils ont publié au début des années 90, et qui était inattendu, c'est que ça augmentait aussi leur sens diagnostique et la qualité de leur diagnostic. Et donc, l'idée, la découverte qui était inattendue, mais qui au fond n'est pas si étrange, c'est que quand vous attachez plus d'importance à une personne, que vous intéressez à elle, que vous partagez, eh bien, vous vous mettez plus au service d'elle, et donc vous mettez aussi vos capacités rationnelles et cognitives à son service. Et que donc, encore une fois, l'émotion peut aider la rationalité, et qu'on peut être un meilleur médecin, un médecin plus compétent, non seulement parce qu'on approche mieux et qu'on comprend mieux et qu'on appréhende mieux la personne et qu'on échange mieux avec elle, mais parce que en le faisant, eh bien, on fait plus appel à son savoir rationnel et à ses connaissances. Donc je crois que cette idée d'un lien étroit entre science, culture et art a été à la fois ce qui m'a attiré initialement de manière un peu imaginaire vers la médecine, et puis ce que j'ai découvert comme étant une des dimensions les plus importantes de la médecine, sans parler, ce qui m'a beaucoup frappé aussi plus tard, de ce qui a été appelé le théâtre du vécu. C'est-à-dire que des médecins ont donné la possibilité à certains patients, et en particulier des patients diabétiques, et en particulier ça a été le cas de Grimaldi en France, de raconter une maladie. C'est pas simplement un trouble physiologique, c'est une perturbation, un bouleversement de l'existence. On n'est plus la même personne, on n'a plus la même représentation du présent et de l'avenir. Et donc, l'idée, ça a été de demander aux patients qui le souhaitaient d'écrire ce qu'ils ont vécu sous forme d'une pièce de théâtre. Et une fois qu'ils l'ont écrit, de leur donner la possibilité, avec un metteur en scène de théâtre professionnel et des acteurs professionnels, de le mettre en scène. Et une fois que c'était mis en scène, de pouvoir assister en tant que spectateur à la représentation de la pièce. C'est ça le théâtre du vécu. Et ça a un effet tout à fait extraordinaire, en tout cas pour beaucoup des patients qui l'ont fait, parce que ça permet de voyager, de transformer l'expérience qu'on a subie en une expérience qu'on s'est appropriée par l'intermédiaire de cet exercice et de cette dimension artistique. Donc je crois que à beaucoup de niveaux, le fait, et ça c'est des exemples qui sont liés à la médecine, aux soins, mais d'une manière générale, ça a toujours renforcé cette idée, cette impression que j'avais dès le début, qui est que au fond il n'y a pas de domaine séparé, et que si on multiplie les approches, les grilles de lecture, les grilles de compréhension, les grilles de rencontre avec le monde et les autres, eh bien on s'enrichit et on enrichit les autres.
Humaniser, hein, toujours, c'est ce qui vous guide. Vos propos, Jean-Claude Amezen, me font penser aussi à peut-être cette évolution de la médecine en gestation aujourd'hui dans certains secteurs, comme par exemple le traitement des cancers. On n'est plus forcément dans l'application d'un protocole général, mais on individualise aujourd'hui les soins.
Il y a des tas de niveaux où ça comment ça se faire et où c'est malheureusement pas encore généralisé. Il y a par exemple un rapport avec le récit. L'interrogatoire, c'est interroger un patient. Ça a toujours été considéré comme ou une patiente essentielle pour savoir ce qui est arrivé, ce qui s'est passé, et donc pour pouvoir poser un diagnostic et pouvoir trouver une solution et une réponse. Mais en fait, ce qu'on demandait à la patiente ou au patient, c'est un ensemble de données objectives, bon, la souffrance, oui, mais la décrire la plus précisément possible, etc., qu'on notait pour avoir quelque chose qu'on construisait rationnellement à partir de ça. Depuis quelques années, on s'est aperçu, et c'est comme le théâtre du vécu dont je vous parlais, que raconter, se dire, c'est une façon non seulement de se faire comprendre, mais c'est une façon aussi de se réapproprier ce qu'on subit. C'est une façon de devenir acteur, et pas simplement quelqu'un à qui quelque chose est tombé sur la tête. Et en s'appropriant ce qu'on vit, on devient un partenaire ou une partenaire. Et donc, ça a donné naissance à ce qu'on appelle la médecine narrative. C'est-à-dire qu'on écoute la personne, pas simplement pour collecter des renseignements objectifs et précis, mais pour pouvoir entrer en contact avec cette personne, pour lui permettre de se transformer et pour mieux la comprendre.
Et engager le processus de guérison.
Voilà, tout à fait.
De meilleure façon.
Et ça va avec quoi? Ça va avec quelque chose d'autre, qui a été la naissance des associations de patients, c'est-à-dire la reconnaissance à un autre niveau des patientes et des patients comme partenaires à part entière dans l'exercice de la recherche et de la médecine. Et donc, c'est un lent mouvement. Ce mouvement des associations de patients, il est né du drame et de la tragédie du sida. La médecine narrative est née autrement. Mais je veux dire, si on regarde ce qui se passe depuis quelques dizaines d'années, au fond, c'est une lente réappropriation par la médecine, et dans certains cas, appropriation par la médecine, de la dimension humaine de cette activité. Hein, et qui avait été en particulier perdu en partie lors des révolutions techniques et scientifiques du début et du milieu du XXe siècle, où la médecine est devenue capable de faire des choses extraordinaires, la réanimation, guérir des maladies qui jusque-là étaient inguérissables, permettre de vivre avec une maladie chronique, et puis qu'en cours de route, je dirais obsédé et oublié par cette technique qui rendait des services extraordinaires, eh bien la personne avait été perdue un peu en cours de route. Et donc il y a un retour depuis quelques dizaines d'années, et de plus en plus, de la prise en compte de la personne, et de s'apercevoir que, ce qui est une évidence, la médecine ne consiste pas simplement à réparer, à guérir des maladies, des dysfonctionnements, elle consiste à soulager la souffrance d'une personne.
Jean-Claude Amezen, donc on comprend que à la fois dans le milieu familial et puis à Yale notamment, vous avez baigné dans cette interdisciplinarité. On se pose forcément la question à ce stade de notre entretien, c'est quel artiste ou quel musicien êtes-vous ?
Alors, je ne le sais pas. Je sais ce que j'aime. J'aime la musique, j'aime la peinture, j'aime... Peut-être que c'est ce qui... non pas m'a le plus bouleversé ou le plus ému, mais c'est peut-être le compagnonnage le plus ancien que j'ai, c'est le compagnonnage avec les livres. Qu'il s'agisse de poésie, qu'il s'agisse de fiction, qu'il s'agisse de théâtre, qu'il s'agisse d'essais, ou même, lorsqu'il s'agit d'essais ou de livres de réflexion, la dimension poétique ou la dimension émotionnelle du récit me touche en plus de ce que j'y apprends ou de ce que j'y découvre en termes de connaissances. Et sans doute, j'ai peint quand j'étais jeune, j'ai joué pas mal de piano, mais je pense que ce que j'ai toujours ressenti comme un dialogue, et ce que j'ai eu envie de faire, c'est écrire. Si tant est que ce soit une activité artistique, c'est sans doute l'activité qui m'a toujours paru la plus évidente.
Quels sont vos souvenirs des années, peut-être collège, lycée, en France, notamment Jean-Claude Amezen, vous êtes passé par l'école Alsacienne, par Louis Legrand?
J'ai rétrospectivement le souvenir d'un monde assez froid, d'un monde assez sec, dans lequel je ne me sentais pas vraiment tout à fait à l'aise. Il y avait quelque chose d'assez formel, il y avait quelque chose d'assez distant. Alors sans doute, avec des exceptions, sans doute l'école alsacienne avec un côté humain et plus ouvert. Mais quand je repense au lycée, J'ai une impression à la fois de grande qualité, d'un certain ennui et de quelque chose qui évoque les casernes. L'ordre, les rangs, les... Je me rappelle quand j'étais dans les petites classes au lycée, j'avais une collection de zéros qu'un de mes enseignants, je crois un professeur d'histoire, pointait. Il y avait des zéros pointés, il y avait des zéros et des zéros pointés. Parce que je répondais sans lever le doigt et demander la permission. Et donc, moi, ce dont je me souviens, c'est la pesanteur de ces règles de fonctionnement. Et rétrospectivement, ce que je regrette, ce que j'ai découvert dans d'autres environnements ou dans d'autres pays, c'est peu d'appel à la spontanéité, à la créativité, à l'invention. Un grand accent qui était mis sur apprendre et restituer ce qu'on a appris, et très peu sur participer en tant qu'acteur au fait d'appréhender et de participer à la construction d'un savoir. Et puis encore une fois, un cloisonnement, ne serait-ce qu'au niveau des matières. J'ai eu la chance de conjuguer à la fois des études scientifiques et l'enseignement du latin et du grec, donc d'avoir quelque chose qui conjuguait science et humanité. Mais l'impression, encore une fois, de quelque chose d'assez rigide. Et je crois que l'école devrait être un lieu de découverte, un lieu d'apprentissage, mais aussi d'émerveillement, d'étonnement, et un lieu où l'enseignement est fait pour que ce qui a été fait, très bien fait pour les tout-petits-enfants avec la main à la pâte, mais qui sont toujours des initiatives un peu exceptionnelles, dans un climat qui est assez triste, qui est assez terne. Donc je crois que il y a besoin de donner ce goût de la recherche dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire apprendre pour être capable d'aller plus loin, mais être en train d'aller plus loin pour voir ce que le bonheur qu'apporte, le fait d'être capable d'inventer ce qu'on fait avec ce qu'on a appris et avec les autres. Et donc je crois que l'école est rigide, je crois ce que j'ai découvert plus tard parce que c'est quelque chose qui ne m'était pas explicite, l'école est aussi extrêmement stratifiée. Et donc l'école exclut les enfants en situation de handicap, l'école sépare les enfants des quartiers défavorisés et ceux qu'ils ont. Donc il y a un cloisonnement et elle construit une société assez cloisonnée et assez inégalitaire. Et ce que je sentais peut-être confusément quand j'y étais, mais que je ne percevais pas dans ces dimensions, d'autres pays qui sont beaucoup plus ouverts en matière d'apprentissage, où la spontanéité, l'enthousiasme des élèves, la créativité des élèves est encouragée, sont non seulement des écoles et des pays comme la Finlande, il y en a d'autres, où les résultats en termes de connaissances, d'apprentissage des connaissances sont bons. En d'autres termes, on peut être joyeux à l'école et mieux apprendre. C'est un peu un reflet de ce que je vous disais sur la médecine et le lien avec les arts. Donc non seulement l'apprentissage des connaissances en mathématiques, en dans la langue, etc. est meilleur, mais ces écoles corrigent des inégalités de génération en génération, alors que notre école non seulement n'est pas excellente en moyenne, il y a des exceptions, il y a d'excellentes écoles au niveau des apprentissages des connaissances, mais n'est pas très bonne en moyenne pour l'apprentissage des connaissances et est très mauvaise au niveau européen ou de l'OCDE pour corriger les inégalités de génération. Donc je crois que cette rigidité, le fait encore une fois de ne pas considérer les élèves, c'est la même chose, comme des personnes à part entière. C'est peut-être des petites personnes dans les petites classes, mais c'est des personnes à part entière. Donc je crois qu'il manque cette dimension à la fois de plaisir. Vous savez, Épicure disait que contrairement à la plupart des activités, où le plaisir vient une fois qu'on a achevé l'activité, dans la recherche, la joie, elle a lieu pendant l'activité elle-même et pas seulement à la fin. Et je crois que l'école, l'apprentissage, ça devrait être cette activité de recherche, dès le jeune âge, de questionnement, de découverte des réponses, dans la joie, dans la joie d'apprendre, et puis dans la joie de comprendre, et puis dans la joie de pouvoir mettre en œuvre avec les autres ce qu'on a appris et ce qu'on a compris. Et puis, l'école devrait être une école de citoyenneté, c'est-à-dire une école où on découvre tous ceux avec qui on va vivre ensemble, ensuite, comme adultes. Et une école qui segmente, qui exclut, est une école dans laquelle, ensuite, c'est difficile de considérer qu'on habite tous une même société, un même monde, où chacun a sa place. La manière dont l'école est conçue et dont elle fonctionne reflète elle modèle une société, mais elle reflète une société. Et donc une société dans laquelle il y a beaucoup de discrimination, dans laquelle beaucoup de personnes ne sont pas reconnues comme des personnes à part entière, bien est une école qui, pour l'instant, n'est pas le levier qui serait nécessaire pour transformer en profondeur notre société. Je pense qu'elle la reflète plus qu'elle ne la transforme. J'espère qu'elle la transformera plutôt que la refléter.
Et dans votre propre famille, justement, Jean-Claude Amezen, est-ce qu'avec votre fils David, vous avez fait en sorte de lui donner ce socle pluridisciplinaire ?
Depuis qu'il est tout petit, on parle. Et il parlait, il était très au courant de mes recherches, de mes activités professionnelles. Il m'interrogeait dessus. Et donc c'était pour lui un monde familier. C'est-à-dire qu'il y avait ce dont on lui parlait, il y avait ses activités, mais il y avait nos activités à Fabienne, à ma femme et à moi. Et donc Fabienne est sinologue et enseignait le chinois. Donc il a appris le chinois très petit. Alors il l'a appris très très petit parce qu'il était en Chine, dans un séjour où Fabienne accompagnait ses étudiants, il avait un an et demi. Et lorsqu'il parle d'ailleurs chinois avec Fabienne, je ne comprends rien. Et donc je me ressens un peu avec nostalgie et presque une sensation de plaisir dans la situation où j'étais quand mes parents parlaient polonais et que je ne comprenais rien. Donc on échangeait beaucoup. Et plus le temps passait et moins l'école lui convenait. Il se sentait, je pense, bridé. C'était pas ce qu'il avait envie de faire. Il fallait apprendre des choses qui l'intéressaient pas à ce moment-là. Et donc, il devenait de plus en plus négatif et rétif par rapport à l'école. Et puis, au moment où il a commencé l'université, où là, il y avait une possibilité d'autonomie dans ses recherches, il a commencé à adorer ça. Et il l'a fait dans un domaine qui lui plaisait beaucoup, qui était l'informatique. Et au moment où il devait décider s'il allait commencer une thèse ou pas, ou rentrer dans des activités professionnelles, il est venu nous dire que, au fond, la recherche, ça commençait à l'intéresser, et qu'il s'attachait à la connaissance, ou que plutôt, c'était la connaissance qui commençait à s'attacher à lui. Et donc, à partir de ce moment, on a commencé, David et moi, à parler comme deux chercheurs. On était à la fois un père et un fils, et on était deux chercheurs. Il m'apprenait des choses dans un domaine que je connaissais pas, qui est l'informatique, et comme son activité avait un rapport de plus en plus avec la biologie, c'est l'analyse d'images biologiques, c'est de l'informatique, mais ça touche la biologie, je lui disais des choses qu'il ne savait pas. Et donc on échangeait comme deux chercheurs à part entière, comme deux étudiants à part entière. Et donc, c'est pas simplement des échanges, c'est pour moi, c'est un apprentissage. Et donc, apprendre de mon fils, être l'élève d'une certaine façon de mon fils, c'est quelque chose de très émouvant. Et je trouve que c'est peut-être ce que je ressens comme l'essence de la transmission. C'est-à-dire pouvoir devenir, d'une certaine façon, l'étudiant de son élève.
Dans votre parcours, Jean-Claude Amezen, il y a la médecine, il y a aussi la recherche. On en parle demain. Merci à vous.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Aurélie Luneau avec Jean-Claude Amezen. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Yves Lehorse, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.